Thank you, Annukka. I have now the pleasure to introduce the next speaker, Mr. Serge Latouche, who is known as key figure in the French décroissance movement. The Finnish translation of his book, Petit Traité de la décroissance sereine, Järjyväiset kasvulla in Finnish, has just been published by Intokustannus. Thereby, you will be able to look at it after this presentation. But, Mr. Latouche, vous avez la parole.
Thank you so much. Good afternoon, everybody. Welcome. But I'm sorry, but I shall speak in my language, in French, because décroissance is very difficult to translate. Alors, toute ma vie professionnelle, ça peut paraître étonnant, mais j'ai fonctionné comme un économiste. Mais maintenant que je suis en retraite, je suis plus libre, je peux faire autre chose. Et en plus, en face d'une crise qui n'est pas seulement une crise financière, qui n'est pas seulement une crise économique, qui n'est pas seulement une crise sociale, qui n'est pas seulement une crise écologique, qui est véritablement, nous le voyons chaque jour un peu plus, une crise de civilisation, il ne suffit pas d'être économiste, il faut devenir un peu philosophe. Et c'est pourquoi je me suis appuyé sur le plus grand philosophe de notre époque, je voyage toujours avec ses œuvres complètes, Woody Allen.
From the outset, I would like to say that I started my professional life as an economist. In front of what we can see as being financial, economical, and social, and even ecological crises, we could even say, actually, these are civilization crises. This implies that economist is not enough. We should be a little bit philosopher. And the most important philosopher of our times, I would like to quote him, Woody Allen.
Woody Allen nous dit, nous sommes arrivés à la croisée de deux chemins. L'un porte à la disparition de l'espèce, l'autre au désespoir total. Et il ajoute, j'espère que l'humanité fera le bon choix.
And Woody Allen says that we have reached a crossroad. One road leads to the destruction of species, and the other road leads to total despair. I hope humanity shall make the right choice.
Alors, il faut prendre très au sérieux cette plaisanterie, parce que c'est vrai, l'un des chemins, c'est celui sur lequel nous étions embarqués, celui d'une société de croissance avec croissance, qui porte effectivement à la destruction de la planète. L'autre, c'est celui que nous avons emprunté depuis le 16 septembre 2008 avec la chute de Lehman Brothers, c'est-à-dire la voie d'une société de croissance sans croissance, et qui est effectivement une voie de désespoir. C'est l'austérité que nos gouvernants nous imposent.
But we should take this joke very seriously, because actually we have two ways. One is the way of growth with
growth society.
Yeah, growth society with growth as its goal. And the second one, which of course leads us where we know. And the second one is the way of Lehman Brothers crisis in September 2008, which is a growth without a growth, the austerity measures, which of course leads to despair.
Alors, fort heureusement, il existe un petit sentier de traverse que Woody Allen n'a pas aperçu. C'est la voie de la décroissance.
Fortunately enough, there is a shortcut that Woody Allen didn't see, and it is degrowth.
Et c'est normal qu'il ne l'ait pas aperçu, parce que le terme décroissance est d'un usage extrêmement récent dans le débat économique et social. Le mot ne figurait dans aucun dictionnaire français des sciences sociales jusqu'en 2006.
It's quite normal that he didn't see the shortcut because the concept, the word, did not exist in our social sciences before 2006, where it appears in the first dictionary.
Alors précisons d'entrée que la décroissance, ça n'est pas un concept, ça n'est pas une théorie, ça n'est pas surtout pas le symétrique de la croissance, qui est un concept et une théorie économique.
Let's point out from the outset that degrowth is not a concept, and in any event, it's a provocative political statement.
Oui, c'est un. Il a anticipé, mon traducteur a anticipé sur ce que j'allais dire. C'est un slogan politique provocateur, de plus, qui a pour objet de marquer l'abandon de cet objectif insensé de la croissance pour la croissance, objectif qui nous mène dans tous les désastres de l'environnement.
Yes, this is a provocative political statement which is primarily intended to strongly signal the abandonment of the goal of growth for the sake of growth, which is an insane objective whose consequences are disastrous as we know.
En particulier, j'insiste sur le fait que la décroissance n'est pas la croissance négative. La croissance négative, c'est ce que nous connaissons maintenant, c'est quelque chose de terrible, parce que ça entraîne du chômage, ça entraîne absence de crédit pour tout ce qui donne la qualité de la vie, l'éducation, la santé, etc. Non, c'est tout à fait différent.
It's important in particular to note that degrowth is not negative growth. Negative growth is what we witness now, which is absence of credits. It is unemployment, and credits, of course, have a bearing on education, health systems, and so on.
En toute rigueur, si nous voulions parler scientifiquement, il faudrait parler d'accroissance avec ce A privatif, comme que l'on retrouve dans athéisme. Et d'ailleurs, c'est très précisément de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire sortir de la religion de la croissance, devenir des athées du développement, des agnostiques du progrès de l'économie.
Strictly speaking, one should speak of agrowthisms, much in the same way as we speak of atheism or agrowth, if we want to speak scientifically. This is actually what we mean when we are thinking in terms of economic atheism or agnosticism.
Alors, pourquoi la décroissance et comment réaliser une société de décroissance?
So, why degrowth and how to reach a degrowth society?
Le projet visé par la décroissance a une double filiation dont chacune des branches a une histoire ancienne. Il s'est formé d'une part dans la prise de conscience de la crise écologique et d'autre part dans le fil de la critique de la technique et du développement.
The degrowth project comes from a dual filiation with each branch having its own ancient history. It was formed on one hand through the awareness of ecological crises and secondly in line with the critical view of technology and development.
Si l'intuition des limites de la croissance économique et du développement remonte, sans doute, on peut remonter jusqu'à Malthus, elle ne trouve son fondement scientifique qu'avec Lazare Carnot et la deuxième loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie. Mais c'est seulement dans les années 70 que la question écologique est posée au sein de l'économie par le grand savant d'origine roumaine, Nicolae Georgescu Răghen, et cette question a été popularisée à la même époque par le premier rapport au Club de Rome, Limits to Growth.
If the intuition of the limits of economic growth probably dates back to Malthus and its findings, its scientific basis dates back with Lazare Carnot and its second law of thermodynamics, entropy, and has been theorized by the great Romanian scholar Nicolas Georgescu, and was informed to the world by the first report of the Club of Rome denouncing the limits of growth.
À la même époque, dans ces années 70, l'échec du développement au sud, des développements devrais-je dire, et la perte des repères au nord amenaient plusieurs penseurs dans le sillage d'Ivan Illich et de Jacques Ellul à remettre en question la société de consommation et ses bases imaginaires, et remettre en question même au niveau philosophique fondamental, ses bases imaginaires, le progrès, la science et la technique.
The failure of development in the south and the loss of references in the north brought several thinkers in the wake of Ivan Illich and Jacques Ellul to question the consumer society and its imaginary mindscape bases, progress, science and technology.
Ce que la décroissance remet en question, ce n'est pas, bien sûr, tous les phénomènes de croissance. Il y a des quantités de choses que nous voulons encore faire croître, en particulier le bonheur, etc. Mais ce qu'on remet en question, c'est la société de croissance dans laquelle nous vivons.
What is at stake is not, of course, all the phenomena of growth, but the growth society in which we live.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société de croissance? C'est une société comme la nôtre qui est totalement phagocytée par une économie de croissance. Et qu'est-ce que c'est qu'une économie de croissance? C'est une économie dans laquelle la croissance devient l'unique objectif, la croissance pour la croissance, produire toujours plus pour consommer toujours plus, pour produire toujours plus jusqu'à la disparition de la planète.
So what is growth society? It is a society dominated by a growth economy, a society which tends to let itself be absorbed by growth, always more production, more growth, and finally reach absurdity.
Alors, une telle société n'est pas soutenable, mais elle n'est pas non plus souhaitable.
Such a society, it's something we shouldn't wish, but it's also not sustainable. It's not desirable, it's not sustainable.
Alors, elle n'est pas soutenable parce que tout simplement, elle se heurte aux limites de la biosphère. What a shame. Et nous en avons un indice maintenant, on peut dire scientifique, avec l'empreinte écologique que vous avez là. Vous avez tous les pays du monde, ou à peu près. Hein. La ligne noire représente l'empreinte écologique soutenable, c'est-à-dire l'espace bioproductif que nous pouvons consommer sans frustrer les générations futures. Eh bien, vous voyez déjà, d'après le graphique, que nous dépassons largement en moyenne l'empreinte écologique soutenable. Nous la dépassons aujourd'hui d'environ 50%. Nous dépassons de 50% la capacité de régénération de la biosphère. C'est-à-dire que nous n'aurions besoin d'une planète et demie, mais on voit aussi tout de suite que ceux qui sont dans le haut, les États-Unis, les Émirats arabes unis, mais très près après la Finlande, n'est-ce pas, auraient besoin de 3 ou 4 planètes.
Such a society is not sustainable because it runs against the limits of the biosphere. And we have a way of measuring this. It's an index that measures the ecological footprint of the environmental weight of our lifestyle. On the screen, you can see the black line which shows this index. And we can also see that it has been overpassed already by 50%. This sustainable black line is the one we need to regenerate the biosphere. But what we're using is already one planet and a half. And as you could see with the Arab Emirates or even Finland, we are far above.
Et si nous continuons, comme nous le faisons toujours, avec un taux de croissance très, même très modéré au niveau de la planète, un taux de croissance d'environ 2%, eh bien, d'ici 2050, en vertu de ce qu'un de mes amis, ancien ministre de l'Environnement du gouvernement italien, Giorgio Ruffolo, appelait le terrorisme des intérêts composés, eh bien, ça n'est pas deux planètes, six planètes, c'est 30 planètes qu'il nous faudrait.
And if we continue with the growth at the rate of 2% and with the different increases in populations and all, what we will need in 2050 is 30 planets. This is what my friend, the minister from Italy, Giorgio Ruffolo, was calling the terrorism of composite interests.
Alors, donc la société de croissance n'est pas soutenable. Mais, et ça c'est surtout la leçon d'Ivan Illich, elle n'est pas non plus souhaitable. Et elle n'est pas souhaitable pour au moins trois raisons. D'abord parce qu'elle engendre une montée des inégalités et des injustices de plus en plus insupportables. Ensuite, elle crée un bien-être largement illusoire. Et enfin, même pour ceux au nord, les nantis, elle n'engendre pas une société sympathique conviviale, mais ce qu'on pourrait appeler une anti-société malade de sa richesse, engendrant l'obésité et le stress.
This growth society, as Ivan Illich put it, is not desirable, and it is not desirable for three main reasons. First, it generates huge, unbearable injustices. Second, it brings about illusory well-being. And thirdly, it generates an anti-society with all its sicknesses, obesity and stress.
Le premier point, je ne le développe pas, il est bien connu. Il suffit de lire les rapports annuels du Programme des Nations Unies sur le développement. On voit des choses obscènes, que les trois plus grandes fortunes du monde dépassent le produit intérieur brut de toute l'Afrique, tous pays réunis, etc. Bon, je passe.
The first point is illustrated by the well-known reports of the UNDP. The huge inequalities in the world, and there's no need to go and speak more about this. And just maybe recalling that only three people have as much wealth as the whole African continent GDP.
Alors, la deuxième raison, c'est que l'élévation du niveau de vie dont pensent bénéficier les citoyens du Nord est de plus en plus une illusion, c'est-à-dire que les avantages depuis les années 70 à peu près, les avantages que nous tirons d'une croissance de plus en plus fictive et spéculative sont inférieurs à ce que les économistes appellent ces coûts marginaux. Autrement dit, nous gagnons certes toujours plus d'argent, un peu plus d'argent, mais nous devons dépenser toujours plus pour compenser et réparer les dégâts engendrés par cette même croissance.
The second reason is that most of citizens in the North believe that they enjoy rising living standards, but this is increasingly an illusion. the benefits we derive from the new growth. The fact that we have more money is not compensated by the fact that we need to spend much more to repair all the marginal costs of the growth.
Alors, nous, là aussi, un économiste qui a été un des responsables de la Banque mondiale et qui est un peu écœuré, au bout d'un certain temps, a démissionné et qui n'est pas Joseph Stiglitz, c'était bien avant, s'appelle Herman Daly. Et Herman Daly a eu l'idée de calculer ce qu'il appelle le Genuine Progress Indicator, qu'on peut traduire par indice de bien-être authentique. C'est-à-dire il soustrait du produit intérieur brut, justement, ces dépenses nécessaires, engendrées, dépenses de réparation et de compensation, les accidents de voiture, les frais de médicaux engendrés par les cancers, engendrés par les pesticides, etc. Il déduit tout ça du produit intérieur brut. Alors vous avez au tableau graphique assez célèbre, on a la croissance du produit brut par tête aux États-Unis entre 1950 et 2000. Alors, on voit bien qu'il y a une croissance continue. En dessous, vous avez cette qui mesure le bien-avoir statistique. Et en dessous, on a le calcul d'Herman Daly, donc le bien-être, en quelque sorte, réellement vécu par les citoyens. On voit qu'à partir des années 70, il y a un ciseau en termes statistiques. Les deux courbes s'écartent irrésistiblement, c'est-à-dire que le produit, le nombre de dollars que les Américains touchent continue d'augmenter, mais le bien-être, lui, il diminue irrésistiblement. Alors, ça s'est vérifié à peu près dans tous les pays. On a fait des calculs et j'ai vu ce matin que c'était aussi vérifié en Finlande, dans ce bel ouvrage fait par Marco Ulvila et Jarna Passanen, Sustainable Future. Vous avez le graphique pour la Finlande à la page 39. Alors, pour la Finlande, il y a un décalage d'une dizaine d'années, à peu près. Les Finlandais sont un peu en retard sur les Américains, mais ça se produit après. Vous avez le même phénomène.
In order to be able to measure this, we have an economist from the World Bank, which actually, after looking at the situation, decided to resign. And I'm not talking about Joseph Stiglitz. I'm talking about Herman Daly. He actually created a composite index called the Genuine Well-being Indicator. We have a graph on the screen that shows the different graphics, one related to the GDP in the United States between 1950 and 2000, where we measure the well-having, the statistical well-having, what appears in the statistics. And under, we can see the well-being indicator or index. And when we reach the 70s, the two graphs diverge. They become a scissor. We can actually witness this not only in the United States, but all over. And if I take the book that was published by the Finnish researcher Marco Ulvila, and Jarna Passanen about sustainable futures. On page 39, we can see that Finland experiences the same phenomenon, even though 10 years later. The growth in the monetary growth does not translate into a well-being growth. The well-being goes down.
La troisième raison, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, l'enrichissement matériel n'accroît pas la félicité, le bonheur. Beaucoup d'études ont été faites dans ce sens, depuis une fameuse étude de Robert Lane sur le subjective well-being des Américains, les fameux paradoxes d'Easterlin. Mais j'illustrerai seulement par une statistique intéressante faite par la New Economics Foundation, qui a calculé ce qu'ils appellent le Happy Planet Index, donc l'indicateur planétaire de bonheur. Alors c'est très intéressant et très provocateur, de certaine façon, vous voyez que l'ordre du bonheur ne correspond absolument pas à l'ordre des produits intérieurs bruts par tête, puisque nous avons en 2008 ou 2009, nous avons en tête le Costa Rica, en 2006 c'était le Vanuatu, et les États-Unis apparaissent en 114e et en 150e position. Malheureusement, je n'ai pas mis la Finlande, là, je n'ai pas eu le temps. Mais on peut le trouver sur le site Happy Planet Index, sur le site Internet.
The third reason is that beyond a certain threshold of material enrichment, the wealth does not bring about an increase of happiness. And there are several studies about this paradox. We know the paradox of Esterlin, for instance, and the New Economic has created New Economic Foundation has created Happy Planet Index, which is rather provocative, as we can see that the GDP per capita does not translate into bliss or happiness. In 2008, Costa Rica was on top, and in 2006, Vanuatu was on top of the happiness list, while the United States were on the rank 114 or 150. I didn't include Finland for lack of time, but sorry about that.
Autant dire dans ces conditions donc que la croissance, même à l'intérieur de l'imaginaire économique, est largement un mythe, hein, et encore plus à l'intérieur de la société de consommation, et que nous avons tout à gagner à en sortir. Comme disait mon maître Ivan Illich, on vivrait mieux si on vivait autrement, et on pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins.
So we can see that growth is certainly a myth, and that by going away from this growth society, we could live better, and with less, we could have a better life.
Vous avez là sur ce tableau les comparaisons entre produit intérieur brut, indice de développement humain et Happy Planet Index. Alors, donc il faut construire une société de décroissance. Oui, mais comment ? La décroissance...
You have on the screen the GDP, the index of human development and the Happy Planet Index. So, yes, the question now to raise is degrowth, but how?
La décroissance n'est pas une alternative. On ne fera pas la décroissance comme on a fait la croissance avec un seul modèle économique, etc. Mais une matrice d'alternatives qui ouvre de nouveau l'espace à la créativité, en quelque sorte en se libérant de cette chape de plomb du totalitarisme économique. Ça signifie qu'on ne doit pas penser une société de décroissance de la même façon au Texas et au Chiapas, où ils ont déjà commencé avec le sous-commandant Marcos, ou au Sénégal et au Portugal. Donc on ne peut pas proposer, et il ne faut pas proposer, un modèle clé en main, comme les économistes de la Banque mondiale ont pu le faire pour les pays du tiers-monde, d'une société non productiviste soutenable, hein, ni non plus de programme de transition.
Degrowth is not an alternative. It's a matrix for alternatives that opens up new spaces for creativity by lifting what I call the lead cloak, the lead coat on of economic totalitarianism. I mean, this means that we should not think of a degrowth society in the same way in Texas and in Chiapas, in Senegal or Portugal. Degrowth, we cannot offer a turnkey model of a degrowth society as the World Bank used to do it for the growth society. But we can only online some fundamentals and give some practical examples.
Alors, la construction d'une société de décroissance se pose à deux niveaux. Au niveau de la conception, c'est le projet, c'est un niveau, je dirais, révolutionnaire, et le niveau de la mise en pratique de la réalisation tirée de la conception, c'est le programme. Programme qui, bien évidemment, doit être adapté au contexte. Hein, un programme, on peut faire un programme, je présenterai un programme pour la France, il appartient aux Finlandais de faire un programme pour la Finlande. Donc le projet, bien sûr, la construction à deux niveaux est politique, mais elle se situe évidemment, le projet de la conception, c'est de construire un projet cohérent, hein, le projet de la réalisation, c'est de construire un programme réaliste. Ce sont deux niveaux tout à fait différents. Alors vous avez déjà au tableau le projet, ce n'est pas le programme, c'est le projet, en 8 R.
On the screen, we have you have one of the two levels. The first level is conception, a project, and it's the revolutionary part. The second level is the implementation part, which implies a program. And every country will have to make its own program. The program from France is the one I will present. It's up to the Finns to make the program for Finland. The concept, the first level, must be coherent. Both are political, of course, but the second, the program level, must be realistic.
Au niveau de la conception, le point de départ, évidemment, c'est le changement des valeurs, réévaluer. Changer les valeurs par rapport aux valeurs dominantes dans la société de croissance. Et ces valeurs dominantes dans la société de croissance, nous le savons bien quelles elles sont, il suffit de regarder des séries d'émissions télévisées, c'est gagner du fric, hein, gagner du fric par tous les moyens, même en écrasant les autres. Hein, l'argent, si on en a suffisamment, ça permet même à un criminel comme Berlusconi d'être au pouvoir.
The first of the R points is the re-evaluation. And if we want to know what are the values of the growth society, well, it's very easy. It's just we open the TV set and we right away know what it is all about. Make money as much as possible, by all means, possibly trampling on others and so on. And it means that we can even have in power a criminal like Mr. Berlusconi.
Il faut sortir des deux valeurs agressives qui sont dominantes dans les médias, la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire la concurrence, et la guerre de l'humanité contre la nature, c'est-à-dire la destruction sans limite des ressources naturelles.
We have to do away with the two aggressive values, which is one, the war, or each one against each one. In other words, competition, the competition between us. And the second, the war against nature, which is the destruction of an environment.
Nous devons nous comporter en bon jardinier par rapport à la nature et non pas en prédateur. Et nous devons introduire un peu plus d'altruisme dans nos rapports avec les autres plutôt que de, comme on enseigne dans les écoles de commerce, répéter indéfiniment « greed is good », que l'avidité est une chose très bonne. Non, l'avidité n'est pas une chose bonne, c'est une chose à condamner.
We should then behave as good gardeners instead of as predators. Learn again the goodness of caring for the others and not what is repeated in the schools of economics. Greed is good, greed is good. No, greed is not good.
Si nous remettons en cause nos valeurs, ou les valeurs sur lesquelles repose notre système, cela nous amène à repenser, ceci, à repenser à travers d'autres concepts, penser que la richesse, ce n'est pas seulement l'argent, qu'il y a d'autres richesses, que la pauvreté n'est pas quelque chose de honteux ni d'indigne, que la pauvreté, c'était la situation de l'homme, sauf dans la parenthèse thermo-industrielle de la croissance fondée sur l'énergie fossile, que la pauvreté digne, c'était la frugalité, et donc que nous devons réévaluer cela, remettre en question les bases fondatrice de l'économie, la rareté. La rareté est très largement une invention de l'économie au XVIIIe siècle, avec d'abord les enclosures et la privatisation des biens communs, des commons, et ça se poursuit aujourd'hui avec la privatisation du vivant, avec les OGM, c'est-à-dire l'expropriation d'un don de la nature, la fécondité des espèces, qui est approprié par Monsanto pour être revendu aux paysans à travers le monde.
If we have to question, we have to reassess our values. Wealth is not only monetary, it's not only money. There are other wealthies, other ways of being wealthy. Poverty is not a shame. Poverty was the condition of humanity up to the industrial revolution of the thermo-industrial society. Scarcity was something that we didn't know before. The scarcity came and was created after, in the 18th century, we had the first enclosures that prevented common people from pasteurizing their cattle on common land. So scarcity led to privatization. We have the Monsanto phenomena of privatizing or the fertility.
Si on remet en cause donc les concepts, eh bien, ça amène à changer les manières de produire, à produire autre chose et à le produire autrement. C'est la restructuration, on est amené à redistribuer, mais aussi à travers à travers un changement de mode de production, c'est évidemment un changement du mode de distribution, donc à redistribuer. C'est les troisième et quatrième R, restructurer et redistribuer. Redistribuer, bien sûr, les richesses, mais aussi les ressources naturelles, c'est-à-dire ce qui implique de réduire notre empreinte écologique pour permettre aux pays du Sud de respirer un peu plus, de consommer un peu plus et de vivre un peu mieux.
Là, tu peux reprendre. Je ne sais pas où vous êtes.
Oh, oui.
Um, If we challenge the concepts, that will lead to change the ways of production. This implies that structures must be changed. We have to restructure, and restructuring will then lead to redistribute, reallocate. So these are two extra of the new concepts of our R's. But to redistribute, it also means distributing not only wealth, also natural resources. It concretely means reducing our environmental footprint in the north so that to allow the south to breathe a little bit more, eating a little bit more.
L'une des formes les plus importantes de ce changement, c'est certainement la relocalisation. La relocalisation constitue une des articulations de ce qu'on peut appeler l'utopie concrète de la décroissance et de son programme politique.
One of the most important forms of this change is also the relocation. Relocating is one of the articulation of the concrete utopia of degrowth of, and of its political program.
Alors, relocaliser, c'est bien sûr, et ça c'est important parce que c'est un argument auquel peuvent être sensibles les ouvriers, les travailleurs qui sont délocalisés, c'est relocaliser les emplois, mais c'est aussi du point de vue de la décroissance, relocaliser la culture, relocaliser le politique. Du point de vue de la décroissance, la relocalisation n'est pas seulement nécessaire du point de vue économique, elle est nécessaire en quelque sorte comme hygiène mentale, intellectuelle et culturelle. C'est, en d'autres termes, retrouver le sens du vivre localement, se réenraciner dans le terroir, retrouver le sens de la mesure et, je dirais, de la justesse, ce qui est sans doute la condition de la justice.
Relocating means actually recreating jobs on site, I mean jobs locally, and this is important also in the minds of workers that are affected by the opposite. It's also not only economical, it's also a question of mental health, of living better by living locally, to go back to what is a just dimension, and this justice of dimension leads to the justice as itself.
Alors, le R suivant, réduire, réduire pourrait à lui seul résumer le projet de la décroissance, en tout cas le projet tel qu'on pourrait l'appréhender par le petit bout de la lorgnette, puisque décroissance et décroître et réduire, c'est presque synonyme. Donc il s'agit bien sûr de réduire notre empreinte écologique, de réduire notre consommation, notre surconsommation, de réduire nos gaspillages. Mais la réduction peut être la plus urgente, la plus importante pour nous désintoxiquer de la société de consommation, c'est certainement la réduction du temps de travail.
Actually reducing, which is the next R in our list, could sum up by itself the degrowth project as actually reduce and degrowing are about the same. This is if we want to see this concept with a very specific and narrow view. Le petit bout de la lorgnette in French. What is to reduce? It's to reduce our environmental footprints, to reduce our overconsumption, to reduce our waste. But maybe the most important and the most urgent reduction today is no doubt. The reduction of working time.
Parce que la réduction du temps de travail s'attaque au fondement même, imaginaire de la société de croissance, de la société capitaliste, de la société de consommation. Donc, nous pourrions dire travailler moins pour gagner plus, c'est pas stupide et c'est même défendable sur le plan économique. On pourrait dire, comme disaient nos camarades socialistes en 81, travailler moins pour travailler tous, c'est certainement important et nécessaire, mais nous allons plus loin, nous disons travailler moins pour vivre mieux, pour redécouvrir que la vie, c'est pas le boulot, c'est pas métro-boulot-dodo, comme on disait en 68, que la vraie vie, c'est celle que l'on fait lorsque l'on se réalise, lorsque l'on médite, lorsqu'on cherche, lorsqu'on prie, lorsqu'on lit, lorsqu'on s'occupe de sa famille, de ses enfants, lorsqu'on joue, etc. Donc ça, c'est se libérer de ce que les Américains appellent l'addiction au travail, work alcoholism, se libérer de la toxicodépendance du travail. Et ce n'est pas si facile qu'on peut le penser.
So, this working less concept, which I underlined, could be working less to earn more. This is economically not at all insane. It could be, as the socialist forces were trying in recent past, to work less so that we can give work to all. What actually we mean is working less to live better, to have a life which is much more worth, a life which drives away from the French métro, boulot, dodo, going to work, and then going to sleep. Having a life that can be dedicated to research, to praying, to meditate, to play, so that we do away with this workaholism known as a concept in the United States.
Alors, les deux derniers R, réutiliser, recycler, bien sûr, une société de décroissance par opposition à notre société qui est basée sur le toujours plus, le jetable, pas, l'obsolescence programmée, eh bien non, il faut réutiliser parce que les produits, les machines contiennent des métaux rares, des produits, des ressources qui nous manqueront, donc au lieu de les jeter, il faut les réparer, ce qui créera des emplois. Et ce qu'on ne peut pas réutiliser, eh bien, on le recycle autant que possible pour ne pas rendre en quelque sorte à la nature ce qu'elle nous a produit, ce qu'elle nous a donné.
And the two last R's are reusing and recycling, which is of course very important in our scheme. Instead of throwing expendable things, repair them. Repair which will create more jobs. And if they are not repairable, then recycle them, extract from them the rare metals that are, as they are, rare, so needed.
Alors, ce premier niveau, donc, crée une vision utopique hein, et subversive, en rupture radicale avec notre système, la vision donc d'un cercle vertueux de décroissance que j'appelle conviviale ou sereine. Mais ça, c'est le niveau de la conception, ça n'est pas un programme concret de réalisation.
So this first level, the level of utopia, is the level where we are wishing to create a virtuous circle. But this is the level of conception, it's not the level of implementation.
Alors, le deuxième niveau, c'est un niveau évidemment qui ne peut être proposé, un programme ne peut être proposé qu'à des gens qui existent réellement, donc il doit être adapté à l'environnement. Alors, pour illustrer néanmoins ce deuxième niveau, je évoquerai le programme virtuel que j'ai proposé en 2007 aux élections présidentielles françaises, un programme en 10 points, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas très différent d'ailleurs au niveau de le nombre de points des précisions, les programmes soit de M. Sarkozy, soit de Ségolène Royal étaient en 6 points ou en 8 points, c'était à peu près du même ordre. Alors ce programme en 10 points, je le fais défiler rapidement, parce que je n'aurai pas le temps de le développer comme dans un meeting électoral.
So in this second level of implementation, what it is all about is to have some kind of electoral political agenda for a concrete situation, a concrete context and concrete people. I will very quickly go through the program I presented in the presidential elections in 2007. It's a 10-point program, the program of Sarkozy or of Ségolène Royal was 6 or 8 points, so it's about the same.
Level. Alors, je passe rapidement donc ces 10 points. Vous voyez, programme vraiment réformiste, c'est-à-dire il ne s'agit pas là de prendre le palais d'hiver et puis, comme les bolcheviks, et puis d'imposer. Non, c'est un programme qu'on peut éventuellement proposer déjà à nos concitoyens.
So donc, this has nothing revolutionary. It's not to take the Winter Palace. It's simply a reformist program, just proposing some reforms.
Donc le premier point, retrouver une empreinte écologique soutenable, parce que tout simplement, une société qui n'a pas une empreinte soutenable est une société à terme qui est condamnée. Donc une France ou une Finlande qui veut avoir un futur doit avoir une empreinte écologique égale à une planète.
So first point, regaining a sustainable ecological footprint, because if not, any society is actually condemned. So it means go to a situation where one country uses one planet.
Le second point, réduire les transports, parce que les transports, c'est une des activités les plus polluantes, qui en plus qui engendre le dérèglement climatique, qui utilise une ressource non renouvelable, le pétrole. Donc, faire payer aux transports son coût réel, à travers, par exemple, des écotaxes, hein. Mais faire payer son coût réel, c'est aussi faire payer le coût de la pollution, du dérèglement climatique. Environ 20 à 30% du dérèglement climatique est engendré par le système des transports. Ça voudrait dire probablement de multiplier le prix du transport par 20 ou par 30. Avec ce prix-là, je n'aurais pas été invité pour vous parler, hein, mais ça ne serait plus nécessaire parce qu'on serait déjà en décroissance.
The second point is reducing transport, this is to be done by internalizing in the transport the costs, the real costs. Transportation is one of the more polluting activities, and it's also using non-renewable resources. So this could be done through eco-taxis or cost or pollution cost integration, which now is between 20 and 30% of the impact on climate imbalance. This might imply to multiply by 20 or 30 my ticket to reach Helsinki, and probably you wouldn't have invited me. But it's not a disaster because then it would mean that we are already degrowing.
Le troisième point, relocaliser les activités. Eh bien, évidemment, si le petit yogourt qui, à l'heure actuelle, incorpore 9000 km de transport, si le transport est multiplié par 20, on va produire le yogourt au plus près de là où on le consomme. Donc, les slogans de l'association de consommateurs italiens, par exemple, kilomètre zéro, consommer des produits qui sont fabriqués le plus proche au plus proche, c'est évidemment tout à fait dans l'optique de la construction d'une société de décroissance.
Third point, relocating activities. This would mean that the small yogurt box or purke in Finnish that we eat. It includes the 9,000 kilometers, would be then multiplied by 20 and or 30. And this would lead to the yogurt being produced locally because it would become too expensive, as the Italian Consumer Association is proning a 0 kilometer products. This is going into the sense of a degrowth society.
Alors, quatrième point, restaurer l'agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture sans pesticides, progressivement, bien sûr, sans pesticides et sans engrais chimiques, surtout, donc une agriculture plus saine, qui produira des meilleurs produits, et aussi, d'ailleurs, des produits de proximité.
Fourth point, restoring peasant farming. That, of course, means agriculture without pesticides, without chemical fertilizers, which will lead to more healthy products.
Oui. Alors, on a déjà, heureusement, des expériences de l'agriculture biologique, la permaculture, l'agroforesterie, etc. Donc, tout ça va dans ce sens, mais c'est pas 5 ou 10% comme le préconise Bruxelles, c'est 100% qu'il faut viser.
We have already this embryo with bio cultures or permacultures or agroforestry, but what we need is not the 5 or 10% the European Union is advocating, but 100%.
Alors, cinquième point, réaffecter les gains de productivité en réduction du temps de travail et en création d'emplois. Alors, c'est quelque chose qui avait été développé dans les années 80 par l'un des précurseurs de la décroissance, André Gorz. André Gorz avait fait des modèles, véritables modèles, où progressivement on réduisait le temps de travail en maintenant le niveau de production, en transformant les gains de productivité qui ont été, en un siècle, on a multiplié les gains de productivité par environ une vingtaine, mais au lieu de réduire le travail par 20, on a multiplié les produits et le gaspillage par 20, on a diminué, ou presque. Donc là, il s'agit de transformer vraiment les gains de productivité en réduction du temps de travail et en création d'emplois.
The next and fifth item, reassigning the productivity gains to the reduction of working hours and to job creation. We had the French André Gorz, who developed some models of how this reduction of the working time could lead to a better environment, a better work environment. But what we have really witnessed is that the gains in productivity have been actually allocated to more products, which have been multiplied by some 20.
Alors, on me dit qu'il faut que je conclue, donc je commente plus les autres points. Donc, développer la production de biens relationnels comme l'amitié, le savoir, qui ne détruisent pas l'environnement.
So, I won't comment on the other items, just restarting the production of relational goods, so to develop relationships.
Réduire le gaspillage d'énergie d'un facteur 4. Pourquoi d'un facteur 4? Parce qu'il y a eu une association d'ingénieurs qui a calculé qu'on pouvait diviser par 4, qui s'appelle l'association Negawatt, qu'on pouvait diviser par 4 notre consommation d'énergie sans toucher notre bien-être.
Reducing in energy waste by a factor of 4. Why 4? Because there was a group of engineers called Megawatt which said that we could reduce the waste without affecting our lifestyle.
restreindre fortement l'espace publicitaire, parce que la publicité est une pollution et une source de colonisation de l'imaginaire.
Strongly restricting the advertising space because advertising is a source of pollution and also of colonization of our mindscapes.
Réorienter la recherche technoscientifique, ne plus la laisser entre les mains des firmes transnationales, mais la rendre véritablement démocratique.
Reorienting technological research to not to leave it in international hands, but make it really democratic.
Se réapproprier l'argent parce que l'argent est un bien commun et par conséquent il est trop précieux pour être laissé entre les mains des banques.
So reappropriating money because money is a common good and it's too precious to be left in the hands of bankers.
Alors, comme vous voyez, ce programme est particulièrement bien adapté pour sortir de façon positive de la crise que nous vivons. Et pour les objecteurs de croissance, sortir de la crise, ça ne peut se faire ni par la relance, ni par l'austérité, mais par une reconversion du système.
So this program is particularly suited to overcome the crisis in a positive way for the growth objectors, a massive conversion is needed.
Alors, pour conclure, la décroissance rejoint ainsi ou retrouve par des voies différentes des quantités de réflexions théoriques et de démarches pratiques menées ailleurs, tant dans le monde anglo-saxon que dans des univers non occidentaux. Je pense par exemple à l'écologie sociale de l'anarchiste Murray Bookchin. Je pense à l'économie profonde du Norvégien Arne Naess. Je pense à l'hypothèse Gaïa de Sir James Lovelock. Je pense aux Transition Towns de Rob Hopkins, mais aussi aux tentatives de création des zones autonomes, les caracoles des néo-sapatistes au Chiapas, et enfin aux nombreuses expériences sud-américaines, indiennes ou autres, comme celle de l'Équateur, qui vient d'inscrire dans sa constitution l'objectif qui est l'objectif de la décroissance, Summa causae, vivre bien, buen vivir.
Degrowth, I mean, all this thinking also meets through different routes the many theoretical other considerations. In the Anglo-Saxon world, in the non-Western world, and I would like to here quote or include the social ecology of the anarchist Murray Bookchin or the deep ecology from the Norwegian Arne Naess, the transition towns of Rob Hopkins or the caracoles from the neo Zapatistas in Chiapas, and many more South American or Indian experiences. And just to finalize and conclude, the example of Ecuador, which has inscribed in its constitution the Quechua, Summa causae, this purpose which means live well. Bien vivir in Spanish.
Thank you.
Thank you, Professor Latouche. I have one question before we give the floor to the philosopher Thomas Wallgren. Yes, Professor Latouche, in your books you advocate for the scaling down of production and consumption, in a way, a contraction of economies. Instead, you call for sharing work and devoting more time to art, music, family, culture and community. So what is your reply to those who consider that the concept of degrowth would inevitably require a reduction of our current well-being and actually the end of the welfare state.
Mais nous devons, si nous faisons cette décolonisation de l'imaginaire, que nous prenons conscience que notre bien-être, notre soi-disant bien-être, traduit de plus en plus une société où 30% des gens sont obèses, où la plupart des gens sont stressés, où ce bien-être est un faux bien-être et que, comme nous vivrions mieux, l'objectif de la décroissance, nous vivrions mieux si nous vivions autrement. Le drame, nous sommes très exactement dans la situation des toxicodépendants. C'est-à-dire, nous sommes des drogués de la société de consommation et de la croissance.
My answer to this is that we actually need a decolonization of our mindscape, of our imaginary. The well-being which is offered to us represents 30% of the population with obesity. Most of us with stress. Well-being is living better. We are nowadays like addicts of growth, addicts of consumption.
Alors, le problème des drogués, il est double. Il y a les trafiquants de drogue, c'est les 2000 firmes transnationales qui ne renonceront jamais. Et puis, le problème des drogués, nous, qui préférons continuer à fréquenter notre dealer pour nous fournir en drogue plutôt que d'entreprendre une cure de désintoxication. Mais devant la menace, hein, puisque nous sommes arrivés à la croisée des deux chemins de Woody Allen, devant la menace de notre disparition, peut-être nous aurons le courage et à l'opportunité d'une crise qui affaiblira le pouvoir de nos drogueurs, nous aurons le courage de rompre avec la drogue et d'entreprendre la cure de désintoxication que représente le projet de la société de décroissance.
The question is that there are two levels. The level of the traffickers, which in our case is the multinationals, which will not renounce to the way they are dealing, and we who prefer to deal with our dealer. But in front of the threat of destruction, the famous crossroad I mentioned of Woody Allen in the beginning, maybe with a crisis we might indulge into a cure of detox.